Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
L'histoire contemporaine de l'Iran s'est écrite sous nos yeux en lettres de feu, juste avant qu'une guerre n'éclate entre l'Iran et l'Irak, qui durera de 80 à 88, faisant 1 million de morts de part et d'autre. Une révolution aura remplacé en 79 un régime autoritaire, sinon dictatorial, par une république islamique nationaliste, anticapitaliste, antisioniste et anti-impérialiste, dont la législation s'inspirera de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique. Événement douloureux pour bien des Iraniens, alors tout acquis au principe démocratique. S'en suivront en effet des violences inouïes à l'égard des opposants politiques, dont beaucoup périront ou prendront la fuite, et un changement de vie radical pour ceux qui ont connu l'occidentalisation du pays au temps du Shah. Voici l'histoire d'une jeune femme qui a connu et vécu ces événements à travers sa famille, ses parents, eux-mêmes opposants au régime, tant celui du Shah que celui de Roménie. Voici Des Orientales, édité chez Liana Levy, écrit par Negar Javadi, que j'ai le plaisir d'accueillir. Negar Javadi, bonjour. Oui, voyez, en un court laps de temps, j'ai réussi à raconter un petit peu l'histoire récente,
bonjour.
De l'Iran. Bonjour Negar. Alors, voilà, moi je suis ravie de vous accueillir parce que j'ai des relations spéciales avec l'Iran, évidemment, c'est ce dont je vous ai parlé hors antenne. Des Orientales, c'est le récit à la première personne de la vie de Kimia, iranienne, exilée à Paris à l'âge de 11 ans. Et évidemment, il paraît que ce n'est pas vraiment une autobiographie.
Ce n'est pas vraiment une autobiographie parce que... attention, il y a quand même des ressemblances. Il y a Kimia, des parents qui sont opposants politiques au régime du Shah et à celui de Khomeini, comme vous l'avez dit. Et moi, c'est totalement mon cas. Elle a quitté l'Iran par la frontière turque, clandestinement, ce qui est aussi mon cas. En revanche, il y a énormément d'événements, dont le premier qui commence le livre, qui ne me sont pas arrivés. Donc, je ne vais pas le dévoiler, mais... voilà, moi, j'ai pas de sœur, j'ai pas une grand-mère arménienne, enfin, bref, elle vit
mais
des choses
que je n'ai
pas
vécues. Mais ce sont des histoires que vous avez entendues, sans doute, non? Une grand-mère arménienne, vous aviez dans votre entourage des Arméniens, peut-être, non?
Les Arméniens étaient très présents dans la société iranienne, donc on a tous connu des Arméniens, enfin, tous les Iraniens qui ont vécu à cette époque-là, parce que depuis, effectivement, l'arrivée des Mollahs au pouvoir, il y a beaucoup d'Arméniens qui sont partis aussi. Hein. Mmh. Oui, j'avais des copines arméniennes à l'école, tout simplement.
Mmh. Alors, vous savez, votre livre, Negar Javadi, me fait penser au roman d'un grand écrivain chinois, Pak Qin. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Je le connais, mais je n'ai pas lu
Oui, alors je pense par exemple, entre autres, à Nuit glacée, parce qu'il témoigne d'un changement de vie, d'un modèle de société que vivent les familles et à l'intérieur des familles, tandis que les adultes sont dans le désarroi et la nostalgie et la tristesse, les jeunes essaient de tracer leur voie. Et j'ai trouvé qu'il y avait de ça chez vous aussi.
Oui, c'est vrai que, en fait, cette révolution dont vous parliez était un grand espoir. C'était extrêmement violent, mais c'était aussi un grand espoir que nous, enfants, on ne mesurait sans doute pas la portée. Parce que c'était la monarchie en Iran, c'était quand même quelque chose. Hein. C'était,
il y avait la savac.
Et voilà, et en plus la police secrète, etc. Donc il y avait énormément de choses qu'on ne connaissait pas quand on était enfant, qu'on nous cachait parce que c'était aussi très violent. Même si moi j'ai vu énormément de photos, par exemple, avec des gens qui venaient chez nous avec les photos de leurs enfants torturés, assassinés, etc. Donc je commençais peu à peu à comprendre ce que tout ça voulait dire. Mais néanmoins, je n'avais pas toutes les clés en main. Donc, les adultes ont perdu une guerre assez incroyable. Donc, oui. Mais bon, la révolution, comme disait Robespierre, tue ses enfants. Donc, c'était dans l'ordre des choses.
Alors, classiquement, on pose la question, pourquoi ce livre? Mais moi, j'ai relevé une de vos phrases. Au fur et à mesure, la chair des événements se décompose et ne demeure que le squelette des impressions autour duquel broder. Viendra sans doute un jour où même les impressions ne seront plus qu'un souvenir. Il ne restera alors plus rien à raconter. Et je pense que c'est fixer, justement, les événements aussi, ce désir d'écrire.
C'est fixer les événements, j'allais vous dire, pas tant pour moi, c'est-à-dire dans un désir personnel de me rappeler ou de sauvegarder quelque chose, ou même comme thérapie, parce que j'avais pas ce besoin. Entre Iraniens, on parle énormément d'Iran. L'Iran, à chaque fois que je vois un Iranien, c'est vraiment le sujet de conversation principal, ce qui a été, ce qui est aujourd'hui.
Ce qui sera demain.
Ce qui sera demain. Donc, voilà, l'Iran, j'ai pas besoin d'en parler. En revanche, ce qui est vrai, et qui était aussi à l'origine du désir de ce roman, c'était mon rapport avec mes amis occidentaux, que ce qu'ils soient français ou belges où j'ai vécu. C'est le fait qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Iran du XXe siècle. Mmh. Alors, on connaît aujourd'hui, depuis 1979, on connaît Khomeini, etc. On connaît très bien Darius, Cyrus, la Perse, des rois perses. Et entre les deux, il y a un immense flou. Et souvent aussi, on me demande, mais comment ça se fait qu'il y a eu cette révolution? Mais enfin, vous n'étiez pas bien sous le Shah, il vous fallait vraiment ça. Voilà. Donc, c'est vrai, on était bien sous le Shah. Je veux dire, en apparence, tout allait bien, mais on n'était pas bien sous le Shah. Parce que dans les coulisses, il y avait un régime dictatorial.
Et des étudiants, particulièrement, qui ont été...
C'était terrible, c'était terrifiant. Oui, oui. La SAVAK, c'était terrifiant, la police secrète du Shah. Si je voulais expliquer la révolution de 79, il fallait que je remonte au Pahlavi. Donc, il fallait que je remonte à l'arrivée de la dynastie Pahlavi, c'est-à-dire au père, donc à 1921 et le coup d'État des Anglais. Puis, il fallait aussi parler de 1953 et le coup d'État des Américains. Oui. Bref, donc l'histoire de l'Iran d'aujourd'hui se lit depuis très très longtemps. Oui. Donc la révolution n'est pas arrivée comme ça. On n'a pas voulu l'islam à corps et à cri. Oui. Tout ça a une logique et il fallait raconter, remonter de plus en plus loin en fait.
Oui. Alors, Désoriental, le titre est formidable. C'est vous qui l'avez trouvé?
Oui.
Ah oui, il est formidable. C'est le jeu de mots, bien sûr, mais désorienté, on le comprend. Alors, je ne sais pas, vous, c'est à 11 ans que vous avez quitté l'Iran. Oui. On imagine que vous étiez désorienté, que de bouleversements. Mais est-ce que Kimia, est-ce dont vous, est-ce que vous avez perdu ce qu'il y a d'oriental en vous? Je ne pense pas.
C'est une des questions qui a donné ce titre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être oriental quand on ne vit pas en Orient? Moi, quand on me voit, très souvent, à cause de mon physique, on me dit, on me donne pas une nationalité, une identité, on me dit pas t'es iranienne, mais on me dit t'es orientale. Donc, en moi-même, je me dis toujours, mais qu'est-ce que ça signifie être orientale en dehors de l'Orient? Qu'est-ce que j'ai d'orientale au-delà de la couleur de mes cheveux, etc., de mon faciès, et qu'est-ce qui me reste d'Orient? Et la question reste très
entière, il faut le demander peut-être à votre entourage. Pour moi, les orientaux, les Iraniens, il me semble, ont un grand sens de la poésie. C'est assez classique de dire ça actuellement, mais je me souviens en plein Téhéran, un chauffeur de taxi qui me récitait des poèmes. Je ne connais pas beaucoup de chauffeurs de taxi français, aussi cultivé soit-il, qui récite des poèmes. Un certain sens de l'humour et même de l'autodérision.
Ça, c'est vrai.
Ça m'a frappé dans un pays comme l'Iran, où les gens savent se moquer d'eux-mêmes, vraiment. Alors après, et puis également le sens aussi, je dirais, de la séduction.
D'accord. Ah d'accord, bon. Je prends. Je vais réfléchir là-dessus.
Bon, dans votre ouvrage, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la diversité des langages et même d'univers. Alors bien sûr, il y a toujours l'humour, ça c'est vrai, une très grande liberté de ton. Et puis après, alors justement, comme vous parlez d'histoire, mais vous parlez de la famille, et puis vous parlez de votre vie, de la vie privée de Kimia. Il y a plusieurs lieux et plusieurs langages différents. C'est un exercice de style assez fort, hein, je trouve.
Merci. Oui, mais en même temps, j'allais pas le choix, parce que il fallait quand même transcrire ces voix que j'avais dans la tête, qui étaient des voix persanes. Donc, l'histoire de l'oncle numéro 2, par exemple, quand il raconte cette histoire-là. Donc, cette histoire-là me venait dans ma tête en persan, parce que, comme vous dites, les Iraniens sont très poètes, et même s'ils ne le sont pas, ils font énormément référence à la poésie. Ils ont une manière de parler dès qu'ils se mettent à raconter des histoires extrêmement particulières. Donc, ça devient tout de suite des contes.
Avec beaucoup d'adjectifs.
Avec beaucoup d'adjectifs, exactement. Donc, il fallait que j'aie ça dans... Donc, l'oncle numéro 2, par exemple, c'était un langage différent. C'était évident parce que c'était une langue différente qu'il fallait traduire. Et puis à la mère, quand elle raconte son histoire du départ, c'est elle qui raconte. Donc c'était aussi autre chose. Parce
et la grand-mère, les grands-mères.
Et les grands-mères, voilà. Donc il y avait énormément de personnages différents qui, de fait, c'est vrai que je parle surtout des Iraniens du livre, ne parlent pas de la même manière. Un monsieur en Iran ne parle pas de la même manière qu'une femme. Une femme âgée ne parle pas de la même manière. Il y a vraiment une différence de classe sociale, de genre, qui s'inscrit dans la langue même.
Et justement, vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez faire connaître l'Iran et les Iraniens à vos amis occidentaux. Et justement, on découvre un mode de vie et de pensée qui nous est tout à fait étranger. Quand vous parlez de cette famille, et on imagine très bien cette famille, une famille étendue, comme il y en a beaucoup quand même en Iran, où les liens restent forts. Il y a des dissensions comme partout, des histoires. Et puis là, on rit beaucoup à l'histoire de cette famille que vous avez inventée en partie. Mais je suppose que vous avez aussi une famille, des oncles. Vous avez des oncles?
Oui, j'ai beaucoup, beaucoup d'oncles, beaucoup plus que Kimia d'ailleurs.
Ah, d'accord. Oui. Alors bon, c'est une famille étonnante, complexe. Le grand-père, l'arrière-grand-père est étonnant.
Aussi, oui, c'est vrai.
Alors,
c'est vrai.
Ma question, est-ce que vous avez eu parfois des échos d'une histoire un peu analogue ou tout est sorti de votre imagination?
Non, j'ai eu des échos des histoires analogues, mais comment vous dire, ces personnages ont existé, je les ai entendus, on m'en a parlé, mais en fait, ma vie en Iran était tellement, j'allais dire, courte, déjà en soi, c'est 11 ans, mais une grande partie de cette vie a été secouée par la révolution. C'est-à-dire, très très tôt, quand j'avais 6 ans, à peu près 6-7 ans, mon père s'est opposé au régime du Shah. Il était le premier intellectuel à avoir fait ça. Et miracle, il a été embêté par la SAVAK, mais il n'a pas été arrêté et tué.
Oui. Voilà. Oui, parce que même à Paris, on sait qu'il y a plusieurs hommes politiques qui ont été tués.
Absolument. Mais lui, en même temps, il y a eu des journalistes étrangers très vite chez nous parce qu'ils parlaient français. Donc, du coup, ça faisait presque une sorte de rempart. Mmh. Et on ne pouvait pas venir comme ça parce qu'il y avait énormément de monde souvent chez nous, beaucoup de journalistes et même d'autres, des personnalités occidentales qui venaient en Iran, passaient forcément par là. Ce qui fait que, en fait, j'ai été coupée aussi de ces histoires assez tôt. Donc, pour moi, tout ça était fictionnel. Dès le départ, ça a été très fictionnel, en fait.
Mais alors, vous me dites, bon, vous avez quitté l'Iran à 11 ans, mais je crois que c'est l'âge, cet âge-là, 9, 10, 11 ans, où on ressent toutes les choses très fortement. Ça ne passe pas forcément par l'intellect.
C'est, non seulement on ressent les choses très fortement, mais pour moi... C'est, j'ai une grande sœur qui n'a pas vécu les choses de la même manière que moi, du tout, parce qu'on n'avait pas le même âge. Mais on est dans l'âge, tout est assez manichéen, j'allais vous dire. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'en sort mieux que les adultes, ou même peut-être les ados. Parce que, en fait, les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. On se crée un camp, on sait dans quel camp on se trouve. On était, nous, dans le camp des gentils, bien entendu. Donc, les méchants étaient... Voilà, donc, quand on a peur, on a très, très peur. Mais quand tout va bien, tout va très bien aussi. Donc, on se... Voilà. Et moi, enfin, je connais d'autres personnes qui sont parties. On s'en est bien sortis avec tout ça. Parce qu'on a su... Il n'y avait pas de subtilité, j'allais dire. Donc, derrière la peur immédiate, il n'y avait pas une autre peur. Il n'y avait pas un scénario qu'on se racontait.
Oui.
Les choses étaient très immédiates. Donc, quand c'était évacué, c'était évacué.
Oui, alors, donc, vous parlez de toute la famille, mais parlons d'abord de vos parents. Alors, des parents qui ont un engagement politique fort, je dirais jusqu'au boutiste, parce que effectivement, dans le livre, parlons du parent de Kimia, dans le livre, on sent quand même que un tel engagement ne met pas à l'abri les enfants. Et j'ai senti, moi, peut-être que je me trompe, comme un reproche de la part de Kimia dans ce roman. Un léger reproche.
On peut le voir comme ça, de sa part à elle, pas de ma part à moi. Non, moi je ne reproche pas à mes parents d'avoir fait ce qu'ils ont fait, parce que je sais pas si en tant qu'adulte j'aurais eu le courage de faire ce qu'ils ont fait. Donc je leur tire mon chapeau en fait. Donc bravo. Kimia sans doute, oui, parce que voilà, déjà elle n'est pas moi, et en plus elle vit des choses que j'ai pas vécues, et c'est très difficile de se dire qu'on ne satisfait pas ses parents. C'est très difficile de se dire, surtout en Iran, dans un pays où on vous parle tout le temps de la famille, où c'est censé être vraiment le noyau le plus dur et le plus... voilà, on a une famille, on doit s'en satisfaire. Et de se dire qu'on ne satisfait pas ses parents et qu'ils ont quand même besoin de faire une révolution, quand même besoin d'exister autrement et ailleurs. Un père, non, un père beaucoup moins, parce que bon, les hommes orientaux,
Ils ont un statut,
ils ont une vie à l'extérieur et on le sait, mais les mères...
La mère de Kimia, pardon, est particulièrement... Elle a envie de laisser une trace, une marque. Elle est un peu, je dirais, une passionnariat.
Elle est beaucoup plus que ma mère à moi, mais absolument. Et elle a envie de laisser, mais elle est aussi dans une sorte de conflit intérieur entre le fait d'être mère à plein temps, même si elle travaille à l'extérieur déjà, mais le fait d'être mère et de protéger ses enfants et de correspondre à l'image de la femme orientale qu'elle doit forcément porter, puisqu'on ne sort pas non plus de son clan et on ne s'invente pas à notre personnage. Donc on doit ressembler à sa lignée. Et entre ça et le fait de vouloir en effet laisser une trace et de ces personnes qu'elle admire, je parle de Simone Veil ou de Angela Davis, et elle a envie d'être dans cette lignée-là, en effet. Donc elle est déchirée entre les deux et finalement elle choisit l'autre, délaissant un peu les enfants.
Et alors, bon, les autres personnages féminins sont très originaux. Et il y a Nour, la grand-mère aux yeux bleus. Alors, on pourrait parler de ces yeux bleus mythiques. Et c'est vrai que je n'ai pas tellement rencontré de yeux bleus en Iran.
Au nord, il y en a beaucoup. Au nord de l'Iran, il y en a beaucoup. Oui. Près de la mer Caspienne, ils sont très clairs. Ils sont moins mélangés avec les Arabes.
Oui, de l'autre côté de la Caspienne, peut-être.
Exactement, c'est quand même très proche de la Russie. Je ne sais pas si vous avez... Oui. Bon, c'est un lac. Hein. Il y avait même les soldats russes qu'on pouvait voir par certains endroits.
Des miradors, oui.
Ouais, absolument. Oui. Donc, ils ont plus un faciès de Russes que d'Iraniens, tel qu'on se l'imagine.
Alors, il y a donc l'arrière-grand-père aux 52 épouses, 28 enfants et 20 servantes. Bon, il y a Nour, la grand-mère aux yeux bleus, qui n'aime que les petits-enfants aux yeux bleus. Alors là aussi, attribut divin. Oui, parce qu'on parlait de la mère de Kimia, mais également les femmes d'une autre génération, y compris la servante, la fameuse Bibi, la vieille servante édentée, ont une particularité, c'est qu'elles ont quand même une forte personnalité, malgré tout, et justement une façon aussi, un langage poétique. On en parlait encore et encore, je trouve qu'elles ont une manière de faire des prédictions. Par exemple, Bibi, de toute façon, elle dit à cette petite fille de 11 ans, de toute façon, tu auras deux enfants, des jumeaux,
exemple. Oui, absolument. Bon. Parce que tu ressembles à ta grand-mère, donc...
Voilà.
Il y a un jeu avec le destin et qui est permanent. Hein, que maintenant, ça soit... Vous parliez de la poésie, mais il y a le livre de Hafez que les Iraniens ouvrent pour... Comme une sorte d'oracle. Oui. C'est un livre de poésie, c'est pas le Coran, c'est pas... Voilà, donc ils ont ce rapport avec la poésie qui prédit et un rapport avec le destin qui est assez particulier, mais dans tout l'Orient, c'est comme ça. Oui. C'est aussi dû au fait que ces pays-là n'ont jamais eu leur destin en main. Et il n'y avait rien en Iran, il y avait très peu de choses. Avant que l'argent du pétrole arrive, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas... Donc, on était à la merci de la vie et de la mort. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'on a créé énormément de moyens de pouvoir lire l'avenir ou prédire les choses et de créer des personnages qui lisent l'avenir. Voilà.
Mais je dirais que même dans la façon de conduire en Iran, je crois qu'on s'en remet au destin.
C'est ça.
Alors, il y a également les frères. Et là aussi, il y a des portraits qui sont extraordinaires. Bon, ce que vous mentionnez à l'instant, la complicité, la soudure qu'il y a dans un clan. C'est un clan, c'est, en fait, non ?
C'est un clan et c'est un clan qui se sait supérieur. C'est aussi ça. Parce que quand même, c'est une société extrêmement conservatrice, la société iranienne, même si... Sous le Shah, elle était laïque, j'allais dire entre guillemets, hein, mais pas la laïcité à la française, mais une laïcité orientale. Mais ça restait quand même une société conservatrice et on connaît, on sait d'où on vient et on a un niveau social. C'est pas un système de caste établi. Néanmoins, on est de la famille qu'on est, quoi. Je veux dire, quand on a un nom, on est...
Ça crée des repères.
Voilà, on sait d'où on vient et quels sont les droits et les devoirs qu'on a. Et donc, du coup, ça soude.
Alors, des repères, mais peut-être un peu étouffants aussi.
De toute façon, je vais vous dire aujourd'hui, après des années passées en France, totalement étouffants.
Alors, il y a la complicité, mais il y a également... Bon, on va dire comme dans toutes les familles, mais en France comme ailleurs, des rivalités, jalousies. Et alors, ce qui est très drôle, c'est par rapport à la mère, l'importance chez les fils de leur place par rapport à la mère.
Oui, c'est une
ça
mère.
Aussi.
Oui.
C'est un peu italien, ça aussi.
Alors, elle a 6 fils, donc voilà. Donc, elle a multiplié par 6 cette espèce de deep. De départ, même si ça ne se dit pas comme ça. Et en plus, les garçons ont vis-à-vis de leur mère une sorte de douleur qui fait que cette femme est dans les mains d'un homme donné en mariage. Elle a traversé les montagnes et cet homme est un tyran domestique. Et donc, elle souffre. Donc, il y a à la fois cet amour inconditionnel, à la fois une souffrance terrible par rapport à ce qu'elle vit.
Oui. Alors, il y a aussi des non-dits au sein de cette famille. Je me dis que dans beaucoup de familles en France et ailleurs, ça a été le cas, moins peut-être maintenant. L'oncle numéro 2, le plus complexe peut-être, hein, le plus intéressant aussi, qui dissimule son homosexualité, parce que je pense que dans ces pays, il n'y a pas d'homosexualité.
Mais non, il a dit, hein, Ahmadinejad, on n'a pas d'homosexualité.
Oui,
bah oui, et celui en Tchétchénie, il continue. Donc non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc c'est encore pire que tout. C'est le tabou le plus fort dans ces pays, parce que, comme je le dis dans Des Orientales, la transsexualité, en revanche, est admise.
Tout à fait. Oui.
Absolument.
Oui, oui. On reviendra sur ce cas-là. Il y a également l'oncle numéro 6. Alors lui, il est à la fois intellectuel, homme d'affaires, et puis on va dire charlatan quand même un peu.
Oui, tout à fait.
Bon. C'est Pirouze, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ah, bah, victorieux.
Le plus riche.
Oui, Pirouze, ça veut dire victorieux.
Ah, victorieux, d'accord.
Oui, bah, de toute façon, à partir du moment où on faisait des affaires, où on fait des affaires, j'allais
même
dire.
Même actuellement, oui.
Oui, on est obligé d'être un peu filou, un peu voyou, un peu charlatan, parce que c'est quand même les pots de vin et tout ça, ça rigole pas là-bas, hein, en Iran. Donc, il fut un temps même quand on allait chercher de l'argent à la banque, il fallait, l'employé disait, je te donne la somme que tu veux si tu me donnes l'équivalent à moi.
Alors voilà, alors des histoires mais dignes de contes, moi vraiment, hein, c'est vrai qu'on rit à bien des moments en plus. Et puis vous y mêlez des réflexions personnelles, souvent pleine d'humour, des rappels historiques bien utiles. Et vous dites à un moment donné, l'Occident et sa regrettable vision hégémonique de l'Iran. Oui, c'est vrai, on a une vision hégémonique. On ne sait pas exactement de quoi est fait l'Iran, parce que j'imagine ce que l'on dit des Iraniens de Téhéran n'a rien à voir avec même ceux... Peut-être que les habitants de Shiraz sont différents encore, ou d'Isfahan. Les habitants d'Isfahan ont un caractère différent.
Différent.
Hein.
Oui. Absolument.
Voilà. Et évidemment, vous racontez ce qui changea dans la famille, l'arrivée du Shah au pouvoir. Ça a été finalement une bonne nouvelle à un moment donné pour l'arrière-grand-père.
Pour l'arrière-grand-père, pour l'Iran, ça a été sans doute une bonne nouvelle parce que le Shah Reza Pahlavi, donc en 1921, le coup d'État fomenté par les Anglais, qui a mis dehors la famille Gadjar, a été une bonne nouvelle Cet homme était un homme extrêmement autoritaire, assez analphabète, absolument pas cultivé, mais néanmoins, il a entrepris de moderniser l'Iran, qui oui. sans doute ne l'aurait jamais été si les Qajars étaient restés.
Et donc, la révolution blanche, la fameuse révolution blanche.
Non, ça c'est le chat.
Le chat, d'accord.
Donc pour l'arrière-grand-père, en fait, il lui a pris ses terres. Mm. Donc il a été envoyé en exil, c'était le premier exilé de la famille Sadre.
Voilà,
parce
oui.
qu'il a modernisé l'Iran, c'est-à-dire il a mis fin à la féodalité. Mm. Il a mis fin au voile, parce qu'il y avait une sorte de milice du voile. Les femmes voilées, on leur arrachait le voile de la tête. Il a donné un patronyme aux Iraniens. Donc, il a fait pas mal de choses, même si c'était un homme extrêmement autoritaire.
C'était une dictature malgré tout.
Absolument. Oui. Mais bon, il y avait... vous savez, en même temps, l'Iran, parfois, on se demande comment on peut gouverner un pays où du nord au sud, on ne se ressemble absolument pas. Au nord, on a les yeux bleus, ce dont on parlait. Au sud, on a vraiment la peau comme les Africains. Et au milieu, il y a le désert. Personne ne parle la même langue. Il y a je ne sais pas combien de religions. Il y a des peuples dans tous les sens. Donc, il fallait peut-être quelqu'un d'autoritaire pour pouvoir rassembler un minimum ce pays. C'est malheureux de dire ça, mais voilà. Et lui a été, en fait... condamné à l'exil, je ne sais pas. Voilà, quand... pendant la guerre, parce qu'il a commencé à flirter avec Hitler et que ça passait pas bien du tout du côté des Anglais et des Russes. Oui. Donc, on l'a jeté dehors et c'est son fils qui l'a
remplacé. Alors, j'ai confondu, je crois, l'arrière-grand-père et le grand-père, parce qu'il y en a un qui est revenu dans ses terres.
L'arrière-grand-père revient dans ses terres parce que Reza Shah lui prend ses terres, comme il a mis fin au féodal. Donc, il lui prend les terres, il condamne le vieux monsieur avec ses 52 femmes et... son troupeau d'enfants et tout le monde à l'exil. Et puis après, quand quelques années plus tard, il lui restitue un bout de ses terres.
Voilà.
Donc, il peut revenir mourir dans son Mazandaran natal.
Alors, je vous propose une pause musicale et j'aimerais qu'on écoute. Ah, écoutez, je n'ai pas du tout un peu de musique iranienne. Javadi, qui vient nous parler de son roman « Désoriental » paru aux éditions Liana Levy. Voilà, alors nous parlons bien sûr de l'Iran passé, l'Iran actuel. Vous n'en avez pas trop des informations par des gens qui viennent vous parler de l'Iran, ça arrive des...
Écoutez, depuis que j'écris « Désoriental » et que je fais beaucoup de rencontres, énormément de gens qui me parlent d'Iran.
Vous avez remarqué que énormément de Français vont en Iran.
Mais voilà.
C'est une folie.
C'est devenu la destination.
Ah,
Air France a mis 3 vols vers Téhéran depuis les accords nucléaires. Tout a changé depuis les accords nucléaires. C'est vrai que l'Iran était le pays le plus sûr de la région jusqu'à il y a très peu. Bon, il y a eu ces deux attentats.
Oui, il y a eu deux attentats, oui.
Voilà. Et maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, le tourisme, mais jusqu'à il y a très peu, il y avait énormément de gens qui partaient en Iran.
Voilà. Alors, des pages d'histoire, là aussi, si vous voulez, je trouve que vous seriez une pédagogue vraiment formidable, parce que l'histoire n'est pas distillée comme ça d'un seul coup, donnée d'un seul coup, mais justement, de moment en moment, tout d'un coup, on a des informations sur l'arrivée de Roménie, par exemple, qui aurait pu, et vous dites, imaginer à cet instant que l'ange n'était en fait qu'un autre démon, la lumière une illusion, qui aurait pu savoir que, tel le joueur de flûte de Hamelin, le vieillard conduirait bientôt les enfants de son pays dans une grotte et les y enfermerait. Certainement pas les Français qui l'ont accueilli à bras ouverts.
Non, ils se sont fait avoir, les Français aussi.
Ils se sont fait avoir.
Mais oui, ils se sont fait avoir. Je pense que. Je pense qu'ils se sont fait avoir. Je veux dire, alors, Khomeini avait écrit des livres. Elle en avait écrit deux qui étaient interdits en Iran. Les Iraniens ne les avaient pas lus. Est-ce que les Français.
Est-ce que ça aurait changé quelque chose?
Je ne sais pas. Il y a un peu une sorte de programme de ce qu'il allait faire. J'en sais rien.
Oui.
Je n'en sais rien. Mais bon, à cette époque-là, vous savez, en fait, il faut lire aussi cette histoire, non seulement par rapport à l'histoire de l'Iran, de façon horizontale, j'allais dire, mais par rapport à l'histoire aussi de cette époque où l'Iran avait à peu près 2500 km de frontière avec l'URSS, qui venait d'envahir l'Afghanistan.
C'est
donc,
vrai.
Khomeini est arrivé exactement au moment où cet événement a eu lieu. En Afghanistan, et quoi de mieux, je présume, que la religion contre le communisme, je sais pas. Enfin,
enfin,
je vous dis tout ça en même temps. Pour moi, c'est des politiques de très courte vue de l'Occident vis-à-vis de l'Orient. Il se passe un truc, on fait quelque chose, mais on ne voit pas toute la complexité de cette région et de tout ce que.
Bien sûr. Oui, je crois que les Anglo-Saxons particulièrement ont été très, très, très aveuglés.
Exactement. Oui. Depuis, ne serait-ce que l'arrivée de Khomeini. Bon, après, on a vu tout de suite où il a commencé à inciter les chiites d'Irak à faire la révolution. Du coup, on a armé Saddam Hussein et on connaît la suite.
Vous savez qu'il y a une rue qui s'appelle Neuf-le-Château à Téhéran?
C'est pas vrai? Ah oui.
Oui, mais pas loin d'ailleurs de l'ambassade de France.
Eh bien, d'accord. Quel hommage.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, oui, quand on parle donc de l'arrivée de Khomeini, et je pense à votre père, à un moment donné, Khomeini lance un mois plus tard, donc il n'a pas mis beaucoup de temps pour se révéler, Khomeini lança au peuple, il faut casser les stylos. Ce à quoi le père de Kimia, alors... répond non, les stylos, que dit-il, qu'est-ce qu'il dit, bon, les stylos écrivent et ne se cassent pas, voilà,
absolument.
Tout simplement.
Absolument.
Votre père était où à ce moment-là?
Mon père à moi,
quand Khomeini est arrivé.
Mon père à moi était sortait peu à peu de la clandestinité, parce que mon père a été en clandestinité pendant très longtemps sous le Shah, parce qu'il a été recherché et l'armée, on avait lancé un appel, où que vous le voyez, il faut le tuer. Donc voilà, donc il était dans une cave ou dans un sous-sol quelconque.
Chez un médecin, un ami médecin, à un moment donné peut-être. Dans le livre, c'est ça.
Pour tout vous avouer, je ne sais pas.
Oui.
Je ne sais pas je ne sais pas, et on n'en a jamais parlé. Donc ça fait partie des choses dont il est sorti de là, c'était l'effervescence, après on est parti, et puis il y a tout un pan de tout ça que je ne connais absolument pas.
Il n'a jamais voulu en parler, c'est trop douloureux, vous pensez?
Je ne sais pas si... De toute façon, tout ça, c'est très douloureux. Ça, c'est sûr que c'est... Même si c'est pas la même douleur pour mon père que pour ma mère, parce que ma mère, soudain, l'affectif et le féminin a pris le dessus, parce qu'elle a laissé sa maison derrière elle, elle a laissé sa famille,
toute sa famille,
voilà.
Oui.
Lui, c'était plus la douleur d'avoir abandonné un pays et d'avoir perdu... Un combat de toute sa vie, quoi.
Oui,
lui, c'était
bien sûr.
Plus ça, elle, c'était plus autre chose.
Oui.
Donc, on n'en a pas vraiment parlé, mais oui, donc il sortait gentiment de la clandestinité et il y est retourné très vite après parce qu'on lui a tiré dessus, en fait, tout simplement. Le régime lui a tiré dessus. Il y a une balle qui a traversé la fenêtre, la porte.
Puis
il est reparti en clandestinité jusqu'au départ d'Iran.
Voilà. Après, il y a eu l'arrivée en France, la découverte d'une autre culture. Pour une petite fille, évidemment, de 11 ans, Kimia, l'exil durement vécu par les parents, ça on imagine très bien, parce qu'arriver à Paris où il peut faire froid, le ciel est bas, il y a tout ça quand même, hein, n'oublions pas. La peur aussi, là vous mentionnez la peur, et effectivement, en revoyant un petit peu mes notes, je sais quand même qu'il y a eu un homme politique très connu, Chapour Bhartia, qui a été assassiné, mais il y en a eu d'autres également. Alors on comprend que le père, tellement intègre, tellement... à fond dans cet engagement politique, tellement admiré également par sa famille.
Tout à fait. Oui, oui, oui.
Et c'est le cas, je crois. Est-ce le père de Kimia et votre père, là, pour le coup?
Oui, mais oui, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est l'adulte que je suis qui prend de plus en plus conscience de
ce
parce
courage.
Que l'enfant que j'étais, oui, en effet, c'était... Oui. Il y avait beaucoup d'opposants, il y avait plein de gens autour de... Enfin, voilà, donc c'était un mouvement, la Révolution. Donc, il faisait partie de ce mouvement-là. Mais au fur et à mesure des années, oui, je prends conscience de ce que ça veut dire de s'opposer à une dictature. Et encore plus maintenant, avec les événements de Daesh et du terrorisme, on est tous effrayés alors que il faut bien que quelqu'un parle, quelqu'un dise les choses sincèrement, franchement, et s'oppose.
Bien sûr. Oui. Alors, il y a également une autre partie qui est totalement différente, c'est sa prise de conscience chez cette petite fille, Kimia, de sa différence. Et là aussi, c'est très intéressant parce que d'abord, il y a la manière dont c'est amené, parce qu'il y a la famille qui parle, la grand-mère qui parle, et il y a toujours des explications finalement assez poétiques ou un peu...
Farfelues,
oui. Il y a au moment où la grand-mère mourait, la petite fille naissait, il y a eu un transfert de gènes ou je ne sais pas trop quoi. Et alors là aussi, on se régale, on se dit bon, il y a... on comprend. Et en même temps... On découvre, vous parlez du machisme oriental et cette petite fille, et ça doit être, je pense, vous qui dites, mais c'est bizarre, dans les arbres généalogiques, il n'y a aucune femme.
Et c'est vrai, dans les arbres généalogiques, il n'y a aucune femme. Et voilà, c'est comme ça, les filles n'existent pas. C'est pour ça aussi que parfois, on me pose la question, ah, Darius, il est formidable. Oui, mais Darius, il s'oppose à un régime. Il n'a rien à faire d'autre que ça, j'allais dire. Dans sa vie, il s'oppose à rien. Alors que Sarah, elle se bat.
Bien sûr, elle se bat pour travailler.
Oui, les femmes se sont beaucoup battues.
Et vous êtes, si je peux me permettre, le résultat du combat de votre mère.
Bien sûr. Non, absolument. Il y a les femmes, et aujourd'hui encore en Iran... Quand vous imaginez que ça fait 40 ans que ce régime est là et que c'est quand même aucun homme, même les plus démocrates, même les plus laïcs, ne se sont révoltés contre le foulard imposé aux femmes. Oui. Personne n'a pris la parole. Il n'y a jamais eu, même, j'allais dire, les opposants iraniens en Occident n'ont jamais écrit une sorte de manifeste en disant qu'est-ce qu'on fait à nos femmes. Jamais. Oui. Les femmes se sont battues d'elles-mêmes. Et le foulard qui était si serré, si bas sur le front, aujourd'hui, c'est vraiment un accessoire presque esthétique qu'elles se mettent sur la tête, même si elles prennent des coups.
Ça dépend si c'est dans le nord ou si on est dans le sud de Téhéran.
Sans doute, oui.
Oui, c'est très différent.
Oui, cette hiérarchie reste quand même très...
Oui, tout à fait.
Chez les quartiers riches et les quartiers pauvres.
Oui. On voit beaucoup plus de cheveux dans le nord de la ville, c'est bizarre. alors c'est ça, ce changement de statut chez les femmes en général et les iraniennes en particulier. On voit aussi cette évolution et qui se vit certainement en Iran actuellement puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants. Donc, même si elles ont le voile, les esprits évoluent.
Totalement, les esprits, mais elles ont été assez formidables. Les femmes se sont battues, se sont opposées et elles ont quand même fait évoluer les hommes, clairement.
Oui.
Et ce n'est que très récemment que les hommes mettent un voile en signe de solidarité avec les femmes, c'est très récent.
Ah oui, ils font ça?
Oui, sur Facebook, il y a plein d'images d'hommes qui mettent des voiles.
D'accord.
Oui.
Voilà, alors évidemment, on voit l'univers de Kimia qui va évoluer. Elle va devenir adulte, elle va fréquenter des artistes un peu marginaux. On sent qu'elle est mal dans sa peau encore, elle n'arrive pas à trouver encore sa voix. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et puis, il va y avoir des rencontres et ce désir d'enfant avec une procréation médicalement assistée. Alors là, le parcours du combattant, très bien décrit, je pense. Une longue et stressante aventure avec tout ce qu'il y a de lourdeur administrative et autres. Bon, et on imagine très bien. Et les formalités, donc, et la peur d'être découverte. En fait, une identité en finale qui va être assumée.
Qui va être assumé, en effet. Moi, je voulais, en fait, dès le départ, d'avoir un personnage. Je ne voulais pas que Kimia soit... j'avais commencé à écrire comme ça. C'était ce personnage que j'avais commencé à écrire n'était pas le Kimia de ce livre-là. Et en fait, si elle n'était pas, j'allais dire, si elle était hétérosexuelle, ça faisait d'elle une immigrée, un peu comme les sœurs. C'était totalement inintéressant. On pouvait tout à fait raconter une histoire, mais ce n'était pas intéressant. parce que j'avais envie qu'elle soit à part pour pouvoir regarder les deux cultures du même point de vue. Donc, en la mettant légèrement de côté, c'est-à-dire en lui donnant une autre identité que l'identité iranienne ou française, en la mettant dès le départ à côté des autres, même en Iran, mais elle pouvait avoir un regard juste, beaucoup plus juste, et sur la société iranienne et sur la société française que celle d'une immigrée ou celle d'une nostalgie qui aurait quitté le pays. Enfin, bref, c'était beaucoup plus juste et de fait...
Et en même temps, plus complexe, plus compliqué pour elle.
Et en même temps, plus compliqué pour elle, et peut-être pas. Et peut-être pas au final, parce que ça semble compliqué, mais comme elle sait, elle, que quels que soient en fait les événements de ce pays, elle serait obligée de partir.
Oui.
Donc,
oui.
Elle n'avait pas sa place dans ce pays-là. Elle n'a pas sa place dans le pays dans lequel oncle numéro 2 s'est tombé. Voilà, a souffert toute sa vie. Oui. Donc, elle n'aurait jamais pu rester dans ce pays.
Elle a vite compris. Ce passage très émouvant quand Leïla lui dit « tu ressembles à une lesbienne », quelque chose comme ça, où tout d'un coup, ça a été formulé. Ça ne l'avait jamais été. Et on voit cette souffrance dans un premier temps, et puis il va y avoir l'acceptation, une autre façon de voir les choses.
C'est, absolument. Donc, il y a cette souffrance parce que en Orient, en Iran, on ne vit pas à côté de sa famille. Si l'homosexualité est vraiment le tabou le plus absolu, c'est aussi parce que l'homosexualité crée des individus. Oui. On est individu quand on est différent et qu'on le dit. C'est pour ça que aussi la transsexualité, on fait une opération vite fait, tout le monde l'accepte, on va dans un hôpital
et
en Iran.
Et on devient
un homme, on devient une femme, on intègre le cercle familial en tant qu'homme, en tant que femme, et la vie repart. Donc on va en rigoler un tout petit peu parce qu'on est comme ça, et finalement c'est terminé. Mais avec un homosexuel, on ne peut pas négocier. Donc elle sait pertinemment où est-ce que ça va la mener ce mot que Leïla lui lance, qu'elle ne comprend pas, parce que c'est un mot en français, mais qu'elle comprend intimement, parce qu'elle sait que c'est le début de sa place en tant qu'individu dans cette famille.
Voilà, eh bien écoutez, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. En tout cas, un grand merci pour cet ouvrage que vraiment j'ai beaucoup aimé.
Merci.
Il s'agit de Désoriental de Negar Javadi. Merci Negar Javadi d'être venu. Aux éditions Liana Lévy. Au revoir.
Au revoir.